Nous allons tout de suite rentrer de plein pied dans la deuxième partie de cette conférence de presse, qui est la partie questions-réponses. Et je vais vous demander une fois de plus, comme à l'accoutumée, d'éteindre vos portables, de les mettre sous silencieux. Nous allons commencer par Goma cette fois-ci. J'ai commencé ces deux dernières semaines par Kinshasa. Goma, c'est à vous pour deux questions.
Merci, nous avons une question.
Je m'appelle Viviane Zamarine Lapour, le compte de la radio-télévision belge francophone. Ma question, c'est par rapport à la nomination du facilitateur du dialogue national, Eldem Koudjou. N'est-ce pas un décalage par rapport à l'approche des Nations Unies sur cette question du dialogue national? Merci.
J'ai pas bien saisi la question à quelqu'un qui toussait là. Est-ce que vous pouvez reprendre la question?
Oui, bien sûr, je parlais de la nomination d'Eden Koudjo pour la facilitation du dialogue national. Une action qui a été faite évidemment par l'OIA, alors que les Nations Unies pourront avoir une autre approche par rapport à l'observation sur cette question des dialogues national, ne voyez-vous pas comme un décalage par rapport peut-être à la procédure des Nations Unies? Est-ce que vous pouvez peut-être procéder autrement que l'OIA?
Non, il faut dire que l'Union africaine va travailler, mettre dans la mer avec la communauté internationale dans son ensemble et notamment avec les Nations Unies de façon particulière. Monsieur Eden Koudjou a été choisi, c'est vrai, par l'Union africaine, mais il a tout de suite dit qu'il avait l'appui de la communauté internationale et notamment des Nations Unies ici en particulier, donc en RDC. Nous allons appuyer son action sur le terrain, mais c'est lui qui est le facilitateur. Nous allons apporter donc moyens logistiques, techniques pour accompagner cette médiation et nous voulons, nous lui souhaitons une très bonne chance d'ailleurs. Deuxième question donc à Goma.
Merci pour la question. Je suis Samuel Arcadius de la radio Alpha Omega, RFM à Goma. Ma question s'adresse tout de suite au général Jean Bayou. Je viens de suivre avec intérêt le rapport militaire que nous a livré le major Amouzou. Et j'ai remarqué le colonel Amouzou, excusez-moi pour ça, les FDLR et les ADF continuent à faire leurs invitations sur la population. Et on a entendu qu'ils ont même tiré sur les aéronefs de la MONUSCO. Est-ce un moyen qui pourrait impliquer directement la MONUSCO à engager des actions militaires pour mettre fin à ces groupes, ou vous voulez encore qu'il y ait d'autres activités de ces groupes armés pour que vous puissiez vous impliquer dans l'affaire comme il se doit? Merci.
Bonjour à nos auditeurs et merci pour votre question. Je pense que vous soulignez une réalité qui est la poursuite des activités négatives des groupes armés, en particulier ceux de l'ADF et du FDLR. S'agissant du FDLR, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a presque un an, nous étions prêts à nous engager dans des opérations conjointes et des circonstances en fait ont fait que la coopération, qui était certainement bienvenue, n'a pas pu s'exercer jusqu'à présent. J'ai souvent eu l'occasion de dire effectivement la disponibilité de la MONUSCO pour reprendre des opérations partout contre tous les groupes et je pense que nous devrions voir des développements assez rapides dans ce domaine. S'agissant de l'ADF, la situation est différente parce que je pense qu'on peut vraiment affirmer que malgré effectivement les attaques qui continuent, on a encore eu il y a deux jours contre une position des FARDC. La menace d'ADF est totalement présente. La menace pour les populations est réelle. Vous savez que je me rends extrêmement souvent dans la région, sur le terrain, y compris dans la forêt, voir les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout l'action que nous faisons avec elles. Et nous sommes en action, en fait. Nous ne communiquons pas nécessairement sur tout ce que nous faisons. En particulier parce qu'ADF est un adversaire extrêmement dangereux, extrêmement imprévisible, mais je peux vous assurer que nous sommes en action. Le fait que nous utilisons notre artillerie, nos hélicoptères de combat, mais aussi nos troupes au sol, nous travaillons tous les jours avec les FARDC sur ces questions-là. et nous devons même chaque jour renforcer notre action et notre complémentarité, la complémentarité et l'appui que peut apporter la MONUSCO aux opérations conduites par les forces de votre pays, de manière à venir vraiment à bout de cet adversaire qui constitue toujours une menace.
Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux questions. À tout seigneur, tout honneur. On va commencer à côté par une dame.
Oui. Bonjour, Sonia Rollet de RFI. Je voulais vous poser plusieurs questions, et notamment sur...
On vous autorise deux.
Deux. Miriki, les casques bleus ne sont pas intervenus alors qu'il y a eu une attaque donc, qui visait l'un des chefs d'Andé, mais qui a fait quand même 17 morts. Cette attaque, il y a eu des coups de feu dès le départ, et les casques bleus sont à moins d'un kilomètre. La seule réaction qu'ils ont eue, c'est de lancer des fusées éclairantes qui a permis le déploiement des FRDC autour du camp de déplacés qui n'était pas attaqué. Donc ma question, c'est quelle est l'appréciation de la MONUSCO par rapport à ce travail? Est-ce qu'il y a une enquête en cours? Quelle est la nature de cette enquête? Et quelles sont les mesures qui vont être prises pour éviter que cette situation ne se répète quand on sait que les relations sont extrêmement tendues en ce moment sur cet axe entre les Nandés, les Hutus, et qu'il risque d'y avoir des représailles? Ça, c'est une. Et puis la deuxième, c'est sur ce qui s'est passé hier avec notamment... ces conférences débats de l'opposition et des messes qui ont été empêchées par la police avec des arrestations voilà, et des interpellations disons, puisque les personnes ont été relâchées. Il y a eu également d'autres activités politiques qui ont été empêchées de l'opposition en province ces dernières 48 heures.
Voilà, d'accord, merci. Nous allons commencer par Miriki, et je crois que le général Jean Bayou pourrait vous donner quelques éléments de réponse, et ensuite ce sera mon collègue José Maria qui va prendre le relais. Général, c'est à vous.
Merci Charles. Nous n'avons pas entendu l'ensemble de la question, mais j'ai quand même bien compris qu'il s'agissait de répondre et de clarifier pour nos auditeurs ce qui est perçu comme un manque de réponse ou une réponse tardive, on va dire, aux crimes, on va dire, qui ont été commis dans la nuit du 6 au 7 janvier à Miriki. Alors, je pense qu'il faut quand même que je prenne quelques instants courts de manière à répondre à cette question. La première, c'est que pour nous, effectivement, on considère cette attaque et ses conséquences comme étant extrêmement graves. C'est vrai qu'elles se sont passées dans un village qui est dans lesquels nous avons une base. C'est une base de Sud-Africains de la brigade d'intervention. Il est aussi constaté, comme la personne qui a posé la question l'a dit, qu'il y a une perception, il y a peut-être certainement une réalité d'une réponse peut-être tardive et que moi-même, en tant que responsable de la force, je considère comme inadéquate. C'est-à-dire que je veux clarifier pour nos auditeurs que quelles que soient les circonstances et le fait d'ailleurs que cet incident était le premier qui arrivait à Miriki de cette nature, donc avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on ne peut pas savoir tous les détails de ce qui se passe en pleine nuit. Les directives que je donne à la force, c'est que chaque fois qu'il y a un soupçon d'incident, d'une situation de tension, c'est d'aller jusqu'au bout de leur travail, dans le cadre de leur mandat, avec les acteurs congolais, qui ont la première responsabilité, on va dire, de protection, de manière à faire leur travail de prévention quand c'est possible, et surtout faire leur travail de vérification de la nature de la menace, de manière à ne pas découvrir plus tard l'ampleur de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas restés sans action, c'est-à-dire que dès le lendemain, le chef de bureau, Daniel Ruiz, s'est rendu avec les autorités civiles et mon adjoint, de manière à prendre toute la mesure de ce qui s'était passé, et surtout apporter notre compassion aux populations, ce que j'ai renouvelé le jour d'après, en présence d'un de vos confrères journalistes, et je me suis entretenu avec les victimes, avec tous les responsables de ce village qui commençaient à revenir, et j'ai vu, maison après maison, les endroits où cette action s'était passée. Maintenant, nous avons pris d'autres mesures, et pour donner une réponse à un autre volet de votre question, en plus des actions faites par la force en elle-même, le chef de bureau de Goma, la section des droits de l'homme, et peut-être que José Mervia donnera quelques éléments complémentaires, la section d'appui à la justice, parce qu'il y a une question de crime et une question d'impunité aussi à faire, nous avons aussi soutenu les actions provinciales et territoriale, de manière à ce qu'un certain nombre d'autorités et d'organismes puissent se rendre sur place et traiter cette question qui est effectivement potentiellement dangereuse au-delà du crime qui s'est commis. Nous avons deux groupes de populations antagonistes, il faut bien le dire, et nous avons un risque, à Miriki, mais aussi dans d'autres endroits des différents territoires du Wali-Calais et de Loubero, de voir de telles situations se produire à nouveau. Donc c'est de la responsabilité de tous les responsables respectifs de non seulement de faire une analyse, mais aussi de prendre un certain nombre de mesures. Sur le plan du contexte et de l'avenir, parce que surtout quelles sont les leçons, non seulement les leçons à tirer, mais surtout la mesure à prendre de ces choses-là. Comme je l'ai dit, c'est d'abord aux autorités locales, provinciales, de le faire, parce que ils sont engagés et nous continuons à appuyer leur action. Et nous serons surtout prêts à appuyer la mise en œuvre des décisions qui seront prises. Sur le plan militaire, je constate que les FRDC ont réagi et se sont déployés déjà dans un certain nombre de villages du Loubero, mais surtout plus au sud, dans la région de Boulay-Oussa, Loussa-Mombo. Et ce sont des développements qui sont quand même significatifs, parce qu'il s'agit du retour de l'autorité de l'État dans des zones qui sont le lieu de combat entre groupes armés. Et quand on constate qu'on a des groupes armés face à face, qui sont les victimes? Toujours ce sont les populations. Donc ce sont des choses qui sont très importantes aussi à noter. Et comme je l'ai dit, la MONUSCO est prête vraiment à appuyer ce processus de contrôle de zones qui étaient auparavant sous l'autorité, si je peux dire, illégale du FDLR, et à poursuivre, en soutien des autorités de ce pays, les opérations de protection des civils et de neutralisation des groupes armés. Maintenant, il y a un dernier point sur lequel peut-être nos amis à Kinshasa voudront réagir, c'est le volet humanitaire. Le déplacement des populations, quand ils se retrouvent sans nourriture, crée aussi des tensions. Et il est à noter que la veille de cette attaque, il y avait des tensions parce que les gens qui étaient déplacés à Miriki étaient rentrés dans leur champ, et ça a également provoqué un certain nombre de tensions. Donc le besoin humanitaire autour de ces opérations contre le FDLR et d'autres groupes armés qui ne sont pas terminés est absolument nécessaire. Et la MONUSCO, si elle a un rôle à jouer sur le plan militaire, c'est simplement d'apporter, de faciliter, on va dire, l'accès de cette aide humanitaire. Je pense que c'est très important sur le plan médical, sur le plan de l'alimentation et même du retour de certaines populations dans des villages dont toutes les maisons ont été brûlées. Je vous remercie.
Voilà, merci. Nous allons peut-être laisser la parole maintenant à José Maria Arenas pour la réponse au deuxième volet de la question de RFI, notamment ces manifestations prévues hier à travers le pays qui parfois ont été un peu, j'allais dire, qui n'ont pas pu se dérouler normalement parfois, je crois.
Non, tout à fait, Charles. Ce qu'on a constaté hier, il avait plusieurs manifestations convoquées par l'opposition et la société civile en commémoration de les événements de manifestation de l'année passée qui ont résulté de la mort au moins de plusieurs dizaines de personnes. Il y avait beaucoup de rumeurs et d'informations qui étaient circulées hier. C'est qu'on a, et la vérification était difficile et pas encore est fini, parce que il avait même l'endroit de manifestation n'était pas communiqué de manière publique pour éviter les empêcher par les sabotages de ces manifestations. C'est que on savait qu'il avait des manifestations convoquées au moins au 24 endroit à Kinshasa, aussi à Lubumbashi, à Bandundu et à Bukavu. On a constaté aussi qu'il avait une grande présence policière et il avait aussi beaucoup de membres sympathisants de l'opposition qui ont été convoqués par la police dans les différents centres du pays. Je pense comme d'une sortie des plans de sécuritaires, mais en tout cas, comme on a toujours dit, les droits à la manifestation publique, c'est un droit essentiel et qui était consacré à la constitution de l'RDC. Et c'est important, essentiel de les respecter si on veut avoir des élections crédibles. Alors il faut trouver un équilibre entre la sécurisation des manifestations et aussi les droits des citoyens à se manifester de manière publique. En tout cas, la convocation par la police a été, nous avons reçu des rapports et que l'ont constaté comme une manière d'intimidation et on a montré notre préoccupation. La semaine prochaine, on va présenter les rapports de la note mensuelle et les rapports de la deuxième moitié de l'année et on continue à constater la tendance à la restriction des libertés publiques. Et ce que m'a vu hier confirme cette tendance de manière préoccupante. Il faut noter ici qu'à la fin de la journée, on a envoyé notre équipe d'un pôle et de droits de l'homme et n'avait personne à arrêter dans les cachots de la PNC. Alors on pense que tous ceux qui ont été convoqués ont été libérés pendant la journée, mais comme je dis, nous sommes encore en train de définir notre rapport. De l'autre côté aussi, il y avait une manifestation à Bukavu au contraire que toute l'information que j'ai dit de Kinshasa, de Lubumbashi, qu'il y avait aussi des rapports d'arrestation de membres de la société civile à Bandundu, qu'il y avait toute l'installation organisée par un parti politique était détruite par membres de la police. Nous sommes en train de discuter avec la police exactement ce qui s'est passé. À Bukavu, il y a eu une manifestation qui a été prise sans problème.
Ok. Voilà, merci. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, comme il le disait, pour le rapport mensuel de la situation des droits de l'homme en RDC, où il y aura beaucoup plus de détails donc sur ces violations éventuelles des droits de l'homme dans le pays. Nous restons ici à Kinshasa pour prendre une deuxième question. On peut aller dans le couloir. Ensuite, on reviendra ici.
Je suis Patricia Panzo de BUAN Télévision. J'ai une question sur le plan sécuritaire. Nous avons appris hier que les ADF ont commis une incursion à Kokola dans le Nord Kivu. J'aimerais savoir si la MONUSCO confirme cette information. Et ma deuxième question, c'est sur le plan politique. Quelle chance la MONUSCO accorde-t-elle aux consultations d'Edem Kodjo? Merci.
Général Bayo, peut-être que vous avez des informations sur cette attaque ADF ou incursion ADF à Kokola au Nord Kivu?
Et simplement pour confirmer cette information, dire que c'est une attaque qui est survenue en début de nuit, qui visait effectivement la zone de Kokola. Cette action a été quand même relativement brève. Elle a malheureusement, selon ce qui nous a été rapporté, coûté la vie à un civil sur une moto qui passait juste à ce moment-là. Mais l'ennemi a été repoussé. Je ne peux pas, bien sûr, donner de détails sur le cours de nos opérations, mais je peux simplement dire et affirmer que nous sommes en action de manière à localiser et à traiter cette menace.
De façon claire et précise, pour répondre au deuxième volet de votre question, il faut dire que, je le disais en début de conférence de presse, les Nations Unies vont apporter soutien logistique, technique à M. Edem Kodjo pour qu'il mène à bien la mission que Mme Zuma lui a confiée. Donc ce soutien onusien ne fera pas défaut à M. Edem Kodjo et nous espérons qu'au terme des consultations qu'il est en train de mener depuis son arrivée, effectivement, le dialogue va s'engager car c'est pour cela qu'il a été choisi. Et nous allons essayer au niveau de la communauté internationale de l'accompagner dans cette mission afin qu'elle puisse porter des fruits. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons rester ici à Goma, à Kinshasa, du moins pour prendre d'autres questions avant de repartir à Goma. Monsieur le secrétaire général de l'UNPC, on ne vous voit pas souvent à nos conférences de presse. Bienvenue.
Puisque je suis là, Benoît Cambéré pour le magazine Les Échos de la région de Grand Lac et RTVL Magazine. Monsieur le directeur, je m'en voudrais de revenir sur la question qu'il vous a été posée parce que mes autres questions ont été vidées par Sonia. Monsieur Etienne Kodjo a été nommé par Madame Kosazana Zuma. Pourtant, les Nations Unies ont été formellement sollicitées pour qu'il nomme un médiateur. Et vous savez qu'une partie de l'opposition congolaise tient à ce que ce soit les Nations Unies qui nomment un médiateur pour peut-être aller à ce dialogue. Est-ce que la nomination de M. Etienne Kodjo fait en sorte que les Nations Unies ne nommeront plus tels qu'ils ont été sollicités pour qu'il y ait un médiateur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais revenir sur Erengeti et Kokola, dont ma consoeur vient de parler. Monsieur le porte-parole intérimaire, je voudrais, peut-être que c'est le général Bayeux qui va nous répondre à cette question. Je reviens d'Erengeti. Il faut quoi encore? Il y a les FARDC à Erengeti, il y a la MONUSCO à Erengeti. Combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'enfin on intervienne? Est-ce que ce groupe de bandits, de présumés de ADF, vont narguer la communauté internationale et l'armée congolaise? Combien de temps et combien de morts encore il faut pour qu'on intervienne exactement? J'ai dit.
On va rester sur cette dernière question avec le général Bayo à Goma. Général.
Bon, sans trahir de secret, ce que vous dites, c'est exactement ce que le chef du village d'Irigeti m'a dit il y a quelques jours, je pense que c'était lundi dernier, sur place, en fait. Quand on revient à Irigeti, qu'on voit le marché qui fonctionne, quand on voit les enfants dans les écoles, on a l'impression que tout va bien, mais moi, je ne peux pas mentir aux gens, je sais que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a encore cette menace qui est là. Et je comprends très bien le fait que les gens qui voient effectivement les capacités de la MONUSCO, nos moyens, nos hélicoptères, se disent « mais où est la réponse ?» Ce qui compte en fait, c'est de dire effectivement que même si vous ne voyez pas tout, même si nous ne pouvons pas vous donner tout détail de ce que nous faisons, nous sommes en action à l'heure où on parle, le jour, la nuit. C'est notre priorité. Je pense que c'est aussi la priorité des autorités de votre pays. Alors, il ne faut pas non plus sous-estimer, malgré tout, la difficulté, les risques, les attaques, aussi le sacrifice fait par les soldats de votre pays, mais aussi par les casques bleus qui ont payé leur vie, l'exécution de leur mandat contre ADF. Maintenant, le message que je veux porter quand même aux populations qui sont affectées par ces menaces, c'est que nous sommes non seulement engagés, mais nous sommes, je pense, de plus en plus engagés. Et j'espère que les jours et les semaines à venir vont démontrer effectivement cette réalité. Mais de mon point de vue, je pense qu'il faut malgré tout regarder la vérité en face. C'est quelque chose de difficile. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça va demander malgré tout des sacrifices. Et ce qui compte pour nous, comme je le dis aussi à nos soldats, c'est la sécurité et la vie, et peut-être aussi l'avenir des populations, c'est ça qui compte. Et c'est pour cela que nous prenons des risques. C'est pour ça que, malgré tout, nous avons eu, de manière répétée, un certain nombre de nos hélicoptères qui ont été touchés. Et nous allons continuer nos opérations de manière à aller au bout de ce processus. Je pense que c'est la volonté conjointe des autorités de notre pays et de la MONUSCO.
Alors, pour le premier volet de la question, il faut savoir, il faut dire que le moment venu, M. Etienne Kodjo lui-même va prendre, j'allais dire, la parole pour expliquer un peu les contours de sa mission de facilitation ici en RDC. Il faut savoir effectivement que les Nations Unies avaient été sollicitées et que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avait donné une feuille de route très claire à M. Saïd Djini. C'est d'engager des discussions préliminaires avec l'ensemble des partis politiques congolaises impliqués dans ce processus électoral pour voir justement la faisabilité de la nomination d'un facilitateur international. Je ne suis pas dans le secret des dieux en toute vérité. J'ai pas vu le rapport de M. Saïd Djinit qu'il a remis à M. Ban Ki-moon, qui a sans doute discuté avec les autorités de ce pays. Toujours est-il, ce qui est important de savoir, c'est que dès qu'il est arrivé ici, M. Edem Kodjo a dit très clairement « J'ai le soutien de la communauté internationale pour ma mission de facilitation ici en RDC ». Et donc, nous pouvons dire, effectivement, confirmer cela, cet appui, ce soutien donc des Nations Unies et notamment de la communauté internationale ne feront pas défaut à M. Kodjo. Nous voulons qu'il engage effectivement, j'allais dire, cette médiation de facilitation ici dans le cadre du dialogue national avec l'appui technique, logistique et puis tout ce dont il a besoin. Nous allons mettre cela à sa disposition pour qu'il réussisse sa mission et nous pensons très bientôt que nous allons rentrer de plein pied effectivement dans ce dialogue. Voilà, nous allons peut-être prendre une dernière question plutôt à ma gauche, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à droite, mais il faut être démocrate. On va essayer de démocratiser ce micro. Voilà.
Alain Mouzi pour la radio SCC. Monsieur le porte-parole, je voudrais revenir sur le mode opératoire des groupes armés, notamment l'ADEF, le FDLR, et cette panoplie de Mai Mai, Yakutumba, les Raia Mutomboki. Comment ils opèrent? Est-ce qu'ils occupent une zone, comme le M23 ont occupé Bunagana et le territoire de Rutshuru, ou ce sont des groupes qui se cachent dans la forêt et qui surgissent dans la ville, mènent des opérations sporadiques et se rétractent dans la forêt? Est-ce que ce sont des groupes localisables ou ce sont des groupes mobiles qui s'éparpillent dans la forêt? Merci.
Général Bayou, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette cartographie des groupes armés présents dans l'est du pays?
On est en train de faire de long développement là-dessus, mais pour résumer, au risque d'être un peu simpliste, les groupes armés, en fait, utilisent ce qui est à leur avantage de manière à jouer leur rôle négatif, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'enclavement, ils utilisent des zones difficiles d'accès, ils utilisent aussi la prédation qu'ils font vers les populations pour imposer leur présence, et ça, c'est une réalité. Maintenant, les groupes armés sont aussi très différents, et c'est pour ça que je ne voudrais pas prendre le temps de nos éditeurs pour discuter de toutes ces réalités. Le M23 n'a rien à voir avec l'ADF. Le M23 était visible, travaillait presque comme une armée normale. ADF est secret, vit terré dans la forêt et sort uniquement pour faire ses actions négatives. Mais je tiens aussi à dire, et ça c'est ma vision, on va dire, de non-congolais, si je peux le dire, c'est-à-dire que je crois malgré tout que chacun de ces groupes armés, pris un par un, est tout à fait à la mesure en termes de neutralisation des capacités des forces de votre pays avec l'appui de la MONUSCO, mais aussi peut-être d'acteurs bilatéraux qui aident aussi vos forces armées. Donc il faut pas, on n'est pas nécessairement face à Al-Shabaab, face à d'autres groupes comme ça, il faut vraiment prendre le fait que l'action est à la mesure de nos... Il faut que nous prenions tous nos responsabilités, enfin, moi je parle uniquement pour la MONUSCO, et que l'on considère qu'il y a une alternative à cette présence négative dans les populations. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est par rapport à la MONUSCO et à son adaptation. C'est ce qu'on appelle la transformation de la force. C'est quelque chose qui nous a été mandaté par le Conseil de sécurité il y a maintenant plus de 9 mois. La résolution 2211, qui est la résolution que nous appliquons actuellement, demande à la force d'être plus mobile et elle demande donc, par conséquence, de pouvoir défier les groupes armés dans les zones où elles sont. Et je reviens hier d'une zone du Walendubindi, en Ituri, où nous conduisons pour l'instant ce qui est simplement une sorte de premier test, première opération pour valider ce concept de bataillon à déploiement mobile qui nous permettra, en soutien des FRDC, non pas d'être dans des zones où il n'y a plus de raison d'être pour la MONUSCO, mais d'être d'abord là où les groupes négatifs sont pratiquement sans opposition pour affecter les populations civiles. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est la capacité de l'adaptation de la MONUSCO qui va réduire ses effectifs mais qui doit aussi être plus capable, effectivement, d'aller là où les groupes armés se trouvent. Et c'est ce que nous faisons actuellement.
Nous restons à Goma pour prendre deux questions, mais nous voyons que d'un moment à l'autre, nous allons perdre nos auditeurs sur Radio Okapi. Nous avons la chance d'avoir donc le général Bayou pour parler des questions militaires. Nous allons rester à Goma pour prendre deux questions.
Merci.
Oui, merci. C'est Norbert Bundou pour le compte de la radio-télévision Grabel. Messieurs, le rapporteur de la CENI a relevé plusieurs défis liés au processus électoral quand il était de passage ici à Goma, et notamment le défi financier, le défi sécuritaire, ainsi que le défi logistique. Et M. Kalamba Jean-Pierre a dit qu'il était impossible de maintenir le calendrier électoral. Et maintenant, ma question est de savoir, M. Charles, à quel niveau la population congolaise peut justement compter de l'appui de la MONUSCO pour décanter la situation.
Non, le Maman Sidikou, lors de son passage récent il y a quelques jours à la CENI, après avoir rencontré le président de la CENI et ses plus proches collaborateurs, a demandé à la CENI ceci. Donnez-nous votre feuille de route. Nous, au niveau de la communauté internationale, nous allons vous accompagner à tous les niveaux. Sur le plan logistique, c'est vrai, mais aussi sur le plan financier, nous allons tenter de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle puisse apporter appui financier pour que les différentes opérations prévues par la CENI dans le cadre donc de ce processus électoral puissent avoir lieu en temps et heure voulue. Et donc, je crois que c'est ce que attend résolument d'ailleurs la communauté internationale pour accompagner de façon claire et nette le travail de la CENI sur le terrain. C'est vrai que le temps presse, c'est vrai que nous avons une course contre la montre, car l'échéance dans les délais constitutionnels, c'est novembre 2016 de cette année donc, et donc il faut que on prenne j'allais dire ces différentes démarches, ces différentes actions de façon très sérieuse sur le terrain. Voilà un peu ce que je peux dire. On reste toujours à Goma pour une autre question.
On va avoir également une question dans le fond avant. Oui. Prenez le micro.
Oui, mon nom c'est Frédéric Ferruzzi, journaliste à la question qui est utile pour moi. Ma question, je l'adresse au porte-parole à l'intérim de la MONUSCO, M. Bambara. Où on en est avec les dialogues stratégiques entre la MONUSCO et les autorités congolaises? Où se situe réellement en fait ces blocages, puisque si les FDLR peuvent commettre encore aujourd'hui des exactions comme celle des qui la semaine passée, c'est puisqu'il n'y a pas eu des opérations conjointes entre la force de la MONUSCO et les FRDC contre ces groupes un petit peu terroristes.
Bon, il y a deux choses que vous dites qui sont pas tout à fait lié, mais qui pourrait être lié, c'est vrai. Il y a le dialogue stratégique entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO, et aussi il y a la reprise éventuelle de cette coopération militaire entre FRDC et la force de la MONUSCO. Pour ce qui est du dialogue stratégique, le terrain est balisé. Nous le souhaitons, nous l'appelons de tous nos voeux la reprise de ce dialogue stratégique pour régler un certain nombre de questions inscrites dans la résolution 2211, notamment la stratégie, c'est vrai, de sortie du pays de la MONUSCO éventuellement, mais aussi toutes les questions annexes sur la coopération entre, j'allais dire, la force de la MONUSCO et puis donc les FRD sur le terrain. Tout cela, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons avec les autorités gouvernementales de la RDC et qui progressent. Et nous pensons et nous souhaitons que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en tout cas, les choses bougent dans le bon sens. Je ne sais pas si le général Bayo veut apporter quelques précisions. Peut-être que c'est à lui de voir comment présenter la chose. Mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la reprise éventuelle, je dis bien éventuelle, de cette coopération militaire FRDC-MONUSCO?
Non, je pense que, comme on l'a souvent dit, nous travaillons à ça, nous sommes prêts, nous préparons, nous sommes en fait les exécutants en fait des décisions politiques, et donc ce sont les autorités de ce pays d'annoncer les choses, mais soyons confiants.
Merci. Nous restons toujours à Goma pour prendre une dernière question avant de revenir ici. Goma.
Goma, est-ce qu'il reste des questions, s'il vous plaît? Oui. Vous avez le micro.
Merci beaucoup. Je m'appelle M. Joras. Je travaille avec l'organisation BIFEL pour le développement des médias. Ma question, c'est une question humanitaire. Parce qu'il y a un collègue qui l'a posé, mais apparemment, il n'y a pas eu de suite. Parce que je me souviens aussi la semaine passée, il y a eu un problème lié au démantèlement du camp de déplacés de Mokoto au niveau de Massissi. Je voudrais savoir quel est le positionnement des humanitaires par rapport à ces personnes qui sont en train de retourner chez eux et ceux-là aussi qui sont en train d'équiper le camp de déplacés pour rentrer dans leur milieu d'origine. Je voudrais comprendre quelles sont les stratégies d'accompagnement de ces communautés dans les zones de retour. Merci.
J'espère que mon collègue du HCR qui nous a rejoint sur la table a compris la question. Peut-être quelques éléments de réponse.
Bon, je réponds pour le compte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se charge dans la réponse des Nations Unies de la coordination de tout ce qui est protection pour les personnes déplacées internes. Effectivement, ces démantèlements du camp ne s'est pas exactement passé en cohérence avec les règles pour une telle ou les normes internationales pour une telle procédure. On est aussi concerné qu'il y aurait possiblement plus de clôtures des camps de déplacés et on est engagé ensemble avec d'autres acteurs humanitaires dans un dialogue avec le gouvernement du Nord Kivu concernant les mesures à prendre dans de tels cas.
Nous revenons ici donc à Kinshasa pour prendre une question. Je veux voir une mère rare qui n'a jamais posé de question. Il n'y en a pratiquement pas dans cette salle. C'est souvent les mêmes personnes qui sont toujours... Là-bas. Bon, voilà, on me signale qu'il y a quelqu'un... Ah bon, ben voilà, allez-y alors. Bon, voilà. Parce qu'on a, c'est pas que les autres questions ne sont pas bonnes, mais on veut quand même démocratiser cette conférence de presse. Allez-y.
Oui, Bakoumania pour l'AFP. Je voudrais qu'on retourne à Mériki. Est-ce que les Nations Unies comptent-elles présenter des excuses aux populations, comme ce fut à Moutaré?
Moutaroulé, exactement. Moutaroulé, tout à fait. Général Bayou, je sais que vous êtes allé plusieurs fois sur le terrain à Mériki, dans le territoire de Lubero. Vous connaissez exactement, j'allais dire, ce qui s'est passé. Je vous laisse la parole. Il y a cette question de notre confrère de l'AFP. Je crois que il vous sied de répondre à cette question en tant que, j'allais dire, responsable de la force de la MONUSCO. Général.
Bon. Comme vous savez, moi je suis le commandant par intérim de la force, hein, donc ma réponse est bien sûr au nom de la MONUSCO, mais d'abord c'est la réponse d'un responsable militaire. Je ne peux pas non plus apporter une réponse définitive à cette question. Ce que nous avons fait, d'abord Daniel Louise, le chef de bureau de Goma et moi-même, c'est que nous avons apporté notre compassion, nous avons parler avec les victimes de ces crimes. Je pense que c'est ça qui est d'abord très important. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est que nous devons bien sûr tirer toutes les leçons et prendre toutes les responsabilités de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons, je pense d'une manière pratiquement sans précédent récemment, tout un dispositif de vérification des actions prises, pas que par la force militaire d'ailleurs, parce que la question n'est pas que militaire, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Si on ne s'en tenait qu'au problème de ce que j'appelais l'inadéquation de la réponse de notre présence militaire sur place, la question serait relativement facile à traiter, mais le problème est beaucoup plus large, comme vous savez. Et le problème demande des réponses beaucoup plus larges. Donc je voudrais m'en tenir à cela à ce moment-là. Ne comparons pas nécessairement la situation de Moutaroulé à celle de Mériki. Et regardons surtout... au-delà du crime condamnable de Mériki, quels sont encore les risques aujourd'hui et quelles sont les actions à entreprendre de manière à éviter non seulement de tels crimes qui se répètent, mais aussi d'autres choses. Le dernier point, c'est sur la définition de la vérité. Je ne prétends pas savoir exactement qui a commis ces crimes, avec quelle aide. Donc ça, ça demande, ça c'est ce qu'on appelle effectivement la lutte contre l'impunité, l'appui à la justice. Il y a des processus d'abord congolais qui sont en cours et que la MONUSCO appuie, et c'est ces mécanismes-là qui doivent apporter effectivement toute la vérité sur les différentes responsabilités. Merci.
Il faut signaler que la MONUSCO fait tout pour appuyer sur le terrain, non seulement les autorités provinciales, mais locales aussi, dans le processus de réconciliation intercommunautaire, car, comme vous le savez, le général l'a dit, il y a un profond malaise intercommunautaire dans cette zone entre population Nandée et population Hutu congolais. Cela a exacerbé la tension au niveau de la localité, c'est sûr. Différentes missions au niveau provincial, accompagnées par, j'allais dire, les spécialistes de la MONUSCO, de différentes sections, ont fait déjà plusieurs descentes à Miriki et ont discuté avec ces populations à Miriki pour essayer de rapprocher ces deux communautés. Ce travail, c'est un travail de longue haleine que nous allons poursuivre, bien entendu, sur le terrain, pour que la paix définitive puisse régner dans les cœurs au niveau donc de ce territoire du sud Lubero. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à cette conférence de presse ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine.